Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 24 janvier 2012 et c'est parti pour les éclairages numéro 5 spécial crowdfunding. Bonsoir à tous et bienvenue, ce soir un éclairage en live, donc rebonsoir à tous si vous nous suiviez juste avant dans Quid Novi. D'ailleurs, Barberousse se cache pas loin il me semble.
Oui, tu m'as encore recruté en fourbe.
Je t'ai embrigadé, j'avais fait exprès, j'avais tout prévu.
C'est n'importe quoi.
Ah oui, donc ce soir un coup, Quid Novi juste avant, et ce soir un éclairage spécial crowdfunding, et donc avec nous ce soir, alors Babozor qui est parmi nous ce soir, bonsoir Babozor.
Salut.
Et avec nous également une partie de l'équipe de Space Origin menée par Actarus.
Salut.
Ouais, salut.
Qui a tes côtés
Alors il y a le très indiscipliné Nalex. L'ultra indiscipliné Anne-Marie. Et un dev Benjamin.
Ils sont tous indisciplinés ce soir.
Bah ouais, non, mais j'arrive pas à les tenir. Je sais même pas pourquoi je les ai invités. J'aurais dû parler.
J'ai une petite question. Est-ce que Actarus est là-haut, très loin dans l'espace?
Alors non, parce qu'elle est venue sur Terre, puisque très haut, loin dans l'espace, j'aurais pas pu venir faire ce podcast, donc il a fallu que je l'aide.
Oui, c'est vrai.
C'est une bonne réponse. Donc ce soir, on va discuter. Donc ce soir, on va discuter de la genèse et du développement, des projets. Donc en l'occurrence, ici, on va parler de Space Origin. Et du Ch'temeleu et de la campagne Barbitude 2013 avec Babozor. Alors je vous propose d'attaquer tout de suite avec le jingle Barberousse. Ah, j'adore ce jingle.
Il est trop bien.
C'est ton jingle préféré.
C'est mon jingle préféré, ouais. On va commencer par Space Origin, ça va être à votre tour de travailler. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail?
Ça va être difficile. En fait, voilà, je vous explique. Je vais présenter 30 secondes à mon avis et juste après, donc Z risque de dire que je parle pas suffisamment bien du jeu, donc il va intervenir et il va le faire à ma place. Donc alors, Space Origin, c'est un jeu sur quoi déjà? Attends, je crois que c'est...
c'est bien parti. Vous connaissez votre produit?
Bon, alors Space Origin, c'est un jeu web par navigateur sur le thème du spatial et voilà, orienté stratégie... on appelle ça un RTS, un Real Time Strategy, même si dans le web on peut pas vraiment parler de temps réel pour en reparler, mais voilà, globalement c'est un jeu web.
C'est pas de la campagne solo, c'est vraiment un jeu en ligne.
J'ai oublié de le préciser, t'as raison, c'est un MMO évidemment, c'est un jeu massivement multijoueur. C'est vrai que quand on dit jeu web, c'est presque un pléonasme de dire MMO, puisque c'est la grande force des jeux qui tournent, enfin des jeux par navigateur en général. Effectivement, oui, c'est ça. C'est un jeu massivement multijoueur.
Et vous avez des références, parce que comme c'est un jeu spatial, vous avez forcément dû puiser des références un petit peu partout. Quelles ont été les références pour Space Origin?
La principale, c'est ma bimbo. Ensuite...
Alors, ouais, c'est ça, voilà. Ma bimbo, ça a été une grande référence. En fait, on a pris autant de références qu'on a... Enfin, les références ont aussi bien servi à poser effectivement les bases, mais ont aussi permis de trouver justement des points d'innovation qu'on a pu trouver, quoi. Mais, pour citer rapidement, donc bon, je cite O-Game, parce que bon, vraiment, on va dire, le truc de base.
C'est obligatoire.
J'ai forcément pensé au game.
Même si on est...
On est loin,
c'est vraiment pas, voilà, c'est... Si on devait citer une référence plus proche, je citerais Nemexia par exemple. Je citerais pas Empire Universe 2.
Le Travian peut-être.
Travian, ouais.
Alors, je reste dans le spatial en fait. Après, dans les autres jeux, oui, Travian, ouais, je le citerais un peu. Je le citerais un peu pour le principe en fait, gestion base inscrit dans une carte. Nemexia en tout cas pour le spatial, après je ne citerai pas non plus Astro Empire. Et sur l'originalité du jeu, je citerai Fallen Galaxy, qui est un jeu qui n'est pas très connu mais qui est bien dynamique et assez original sur son mode de jeu.
Ouais, d'accord. Mais d'où est venue l'idée de Space Origin? Ça remonte à loin ou c'est quelque chose finalement que vous avez tous eu envie de faire, ou d'où vient l'idée?
Oui, revenons aux origines.
À la base.
En fait, l'origine, à la base de base, on va pas rentrer dans trop les détails, mais à la base, c'était un projet, en fait, qui était dirigé par... c'était un partenariat avec une société suisse. Et le jeu s'appelait pas Space Origin, il s'appelait XeWar, en fait. Et il y a eu un souci, en fait, comme quoi, voilà, ça fait partie aussi de l'histoire du projet, c'est pour ça qu'on le dit aussi. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, donc, Nectar de Code... donc notre équipe faisait un partenariat avec cette société et il s'est trouvé en fait que cette société elle n'existait pas, il y avait une grosse irrégularité en fait sur ce projet là et en fait on s'est retrouvé du jour au lendemain, alors qu'on avait déjà commencé un autre jeu web de notre côté où on était à fond dedans, on avait un petit peu mis en pause ce jeu pour travailler sur ce projet pour, en partenariat mais en tant que, on va dire, presque petite main, quoi. C'est pas nous qui étions censés être à la tête du projet. Bon, on s'est retrouvé en fait à la tête du projet puisqu'il y a eu un gros souci et on a récupéré en fait également toute l'équipe externe à ce projet. On s'est dit à ce moment-là, ça faisait 6 mois en fait qu'on travaillait dessus. On s'est dit bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce projet-là. Bon, le temps on maîtrise pas tout ça, donc ça nous a fait un petit coup quand même. Et on a, on a à plat et on s'est approprié et on a repensé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a, il y a des choses qui étaient pensées en fait, qui pour nous n'étaient pas pensées pour faire vraiment un jeu original avec des vraies valeurs, avec un vrai background et surtout avec un vrai manque de cohérence.
Manque d'identité, ouais.
Manque d'identité, ouais, de cohérence générale. Donc du coup, on a tout posé à plat, on a changé le nom, on a jeté les races, on les a entièrement refaites, on a réécrit intégralement le background, on a revu tous les designs, les visuels des vaisseaux, on a revu tout le jeu, tout ce qui existait, on va dire...
À la base.
À la base, quoi, de toutes les créas. Et on a fait Space Origin, voilà. Et Space Origin, donc après, c'est plus Actaris qui peut parler de la genèse de Space Origin.
Oui, donc la genèse de Space Origin.
Alors en fait, elle est assez philosophique. Je suis désolée parce qu'à l'époque justement, donc on a eu ce problème-là. J'appelle directement un problème parce que ça nous a quand même fait du mal au moment où l'équipe s'est retrouvée avec le projet dans les mains et s'est rendu compte qu'il fallait absolument en faire quelque chose parce que c'était quand même le fruit de notre travail et puis on y avait mis tout notre cœur. Bah, à cette époque-là, je travaillais avec mes élèves parce qu'en fait, je suis prof de philo.
Ah. D'accord.
Donc voilà. Mais de maths aussi, donc en fait je suis assez passionnée de sciences et de philosophie, et à cette époque-là avec mes élèves on traitait justement du lien entre la technique, la nature, l'homme, etc. et la liberté. Et on en était en fait à discuter sur les intelligences artificielles, sur la cybernétique. Mais juste comme ça, vite fait en cours, ça n'est pas partie du programme malheureusement, mais donc on en parlait vite fait. Et donc en fait j'en étais sur l'idée que... Mais ça paraissait évident que s'il fallait à l'homme moderne, entre guillemets, celui de notre époque, trouver un moyen de survie, bah, il risquait d'aller nécessairement vers la cybernétique, étant donné que l'IA, c'était quand même plutôt une forme d'échec, on a bien l'impression, et que l'harmonie avec la nature n'est pas non plus sans doute la priorité. Il me semblait assez cohérent que ce soit le fait de se cybernétiser, je pense que ça se dit, la solution à notre adaptation à la nature. Alors que, bon, habituellement, on adapte la nature à nous, bah là, c'était plutôt nous qui devions nous transformer pour trouver une forme d'adaptation, quoi. Donc je suis partie là-dessus pour un futur plus ou moins crédible.
D'accord. Oui, c'est vrai que partir d'une idée comme ça pour en faire un jeu, c'est vrai que c'est assez original.
Et surtout que d'habitude, dans la SF, on parle de terraforming, où on va manipuler les planètes... pour les adapter à nous, à la race, alors que là, c'est l'inverse, c'est la race qui va s'adapter à son environnement.
C'est pertinent comme remarque, parce que c'est un des points sur lequel on va se différencier sur les autres jeux, dans le sens où dans les autres jeux, le référentiel, c'est souvent la planète, comme tu as dit, ouais. C'est-à-dire qu'on colonise une planète, alors c'est un peu rigolo, parce que symboliquement, en général, les bases, c'est quelques bâtiments, mais bref, c'est pas grave, c'est quelques bâtiments, ça représente la colonisation d'une planète entière, et donc on va être dans un univers...
Énorme
en fait, avec plein de planètes. À chaque fois qu'on fait une nouvelle base, c'est carrément une planète. Et nous en fait on a choisi un référentiel différent dans le sens où ce référentiel c'est un système planétaire et où sur une planète en fait on va mettre entre 500 et 1000 joueurs Et du coup, sur voilà, et du coup, c'est voilà, symboliquement le référentiel est différent. Et du coup, c'est comme ça que s'inscrit également la partie politique, puisque au sein de ces 500 000 joueurs sur chaque planète, eh ben, il va y avoir un gouvernement et tout un système d'alliances politiques en fait qui va s'installer.
Oui, on est à la fois dans du local et du politique à l'échelle d'une planète, ouais.
Voilà, ouais.
Contrairement à ce qu'on a pu dire avec Ogame, c'était vraiment du. Pas vraiment du politique, mais on voyait plus à l'échelle de la galaxie, de l'univers entier aussi.
Mais il y avait énormément d'alliances qui se mettaient en place, ouais. Il y avait toute une organisation comme ça.
Oui.
Voilà, c'est juste un choix de référentiel, quoi, dans le sens où en fait, voilà, dans la plupart des jeux web spatial, on est donc sur un référentiel planétaire, et là, c'est plus une référentiel de système planétaire, quoi.
En gros, on renforce aussi l'aspect communautaire du coup avec ça.
Oui, parce que forcément, on va devoir faire gérer les voisins, gérer la politique. Oui.
Ouais, la politique en plus, c'est faire sa campagne. Faire sa campagne, c'est donc amadouer son public, créer son parti politique. Ça va être ça. Les alliances seront en gros des partis politiques, et il va falloir le gonfler et prendre de la valeur et de l'intérêt par rapport aux autres habitants de la planète pour pouvoir être élu empereur et de pouvoir après avoir un autre aspect du jeu un nouveau gameplay qui va se mettre en place où on pourra gérer du coup toutes les taxes de la planète, on pourra gérer une grande armée planétaire qui sera constituée grâce aux autres joueurs qui suivront cet empereur et en plus grâce aux taxes qui formeront un budget et on pourra du coup cette fois maintenant attaquer d'autres planètes en fait. On passera de l'attaque entre joueurs à l'attaque entre planètes, en fait, plus gros.
Et concernant le jeu en lui-même, il y a plusieurs races, vous pouvez vous en dire plus ?
Alors, ouais, il y a...
Un petit peu plus sur le background du jeu.
Alors, le background, après, Actarus en parlera mieux, mais ouais, il y a trois races... Il y a trois races qui ont des styles de jeu, en fait, orientés différemment, en fait. Hein. Ça, c'est assez classique, c'est-à-dire il y a une race qui est plus orientée technologique... une race qui est plus orientée offensive, une race qui est plus orientée défensive.
Oui.
Et donc, chaque race va pouvoir se mélanger avec les autres races. Il n'y a pas de clivage de race. Donc, une race, à la base, c'est pas un clan, c'est juste un style de jeu. Ça aurait pu être le cas, mais c'est pas le cas. Là où il va y avoir vraiment un clivage, donc, comme disait Alex, hein, c'est au sein des planètes et au sein des alliances qui vont être constituées sur ces planètes. Parce qu'en fait, il faut savoir que de base, les planètes. Donc, déjà, les planètes, elles sont un petit peu différentes, dans le sens où elles ont une taille différente. Elles ont chacune leur taille, elles ont chacune une rareté de ressources, etc. de base. Mais c'est vraiment au fil du jeu, en fait, et c'est ce qu'on aimerait, c'est-à-dire que ce soit vraiment les joueurs qui créent vraiment la spécificité de chaque planète, dans le sens où le gouverneur qui va être en place sur ces planètes-là. Va vraiment dessiner et rendre la planète unique. Et là, au niveau de la planète, on aura cet aspect clivage et probablement baston interplanétaire entre peuples.
Ouais, c'est ça qui est intéressant. Puis j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui sont ajoutées aussi, des modules de combat, où on peut voir le combat en temps réel. Il y a plein de choses comme ça qui donnent vraiment envie.
Alors ouais, le combat en temps réel, ça c'était pour donner un petit côté... un peu plus dynamique au jeu web. Bon, alors ça se fait un peu plus maintenant, mais c'est vrai qu'avant les jeux web comme au game ou les jeux formulaires, c'était
assez froid.
C'est très suggéré et du coup on a des rapports de combat quoi. Bon, c'est bien mais le rapport de combat, on dit vous avez gagné, vous avez perdu. Ça permet de s'imaginer le combat, mais ça permet pas de le voir vraiment, et surtout ça permet de sentir un gameplay. Et nous, on voulait essayer d'arriver à sentir un gameplay. Quand on sent un gameplay, c'est qu'on essaye que le joueur, comme dans un RTS, par exemple sur Warcraft 3 ou n'importe, hein, et ben on voit par exemple, on voit que les archers ils ont une portée différente, etc. Enfin, on peut sentir des mécaniques en fait en jouant, quoi, en testant.
On peut améliorer sa stratégie.
C'est pour ça que là, on a fait un système de formation on voit une fois qu'on constitue sa formation, donc avec des différents types d'unités, avec des différentes positions, et ben on peut voir le résultat de ce combat et surtout le résultat de cette formation-là vis-à-vis de la formation du défenseur. Et ça permet de sentir un petit peu les choses, quoi. On voulait avoir ce côté-là, mais ça reste des combats pas temps réel, d'accord ? C'est-à-dire que c'est des combats On lance un combat, ça va mettre, mettons, je sais pas, une heure à arriver chez l'ennemi. Et ensuite, l'ennemi n'a pas forcément besoin d'être devant sa machine pour que le combat se passe, puisqu'on reste sur du jeu avec monde persistant, et du coup, ça reste du jeu
de
web.
De toute façon, c'est un prérequis que...
pour du jeu web.
Pas avoir tous les joueurs connectés en même temps, c'est, voilà. C'est vraiment prérequis pour le jeu, j'imagine.
Pour un jeu par navigateur, tout à fait. Ouais.
Il faudrait peut-être préciser ça justement, ce genre de prérequis. Comment vous allez, comment ça va marcher? Ça va être du tour par tour? Ça va être une heure pour tant d'actions? Comment ça va marcher?
Le jeu, c'est un monde persistant, donc c'est-à-dire que le jeu, le monde tourne, qu'on soit connecté ou qu'on soit pas connecté, c'est-à-dire que les ressources sont produites, les unités sont produites, etc. Et quand je fais un déplacement sur le monde, sur la planète, ça prend un certain temps. Donc ça va, enfin, le temps ça va de l'ordre de la minute jusqu'à l'heure, même voire jusqu'au jour si on se fait des déplacements interplanétaires. Et voilà quoi. Et du coup, même je lance un déplacement, je fais une attaque, je reviens le soir, et, ah ben c'est cool, mon attaque a eu lieu, et je regarde si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Et le défenseur, lui, de l'autre côté, il a programmé sa défense à l'avance. Bien sûr, il peut recevoir par mail ou par SMS suivant, suivant ce qu'il a comme, comme compte. Qu'une attaque va arriver, mais c'est pas obligatoire qu'il soit devant sa machine lorsque l'attaque va arriver. Ça lui permet juste, on va dire, de peut-être réagir quoi, plus précisément vis-à-vis de l'attaque. Mais c'est tout.
Et au final, ça fait combien de temps que le jeu est en cours de développement?
Voilà, le premier projet a été lancé le 15 février,
mois,
et après le problème, enfin le basculement vers Space Origin a eu lieu en août. Et c'est en août en fait qu'on a redesigné, enfin on a gardé bien sûr le moteur de jeu. Une partie, et on a redesigné les créas, donc voilà, ça fait bientôt un an en fait que le projet a bientôt un an.
Et au final, vous avez fini par faire appel au crowdfunding, donc vous avez lancé votre projet sur Ulule. Comment vous avez connu un petit peu le crowdfunding Ulule, vous connaissiez avant, quelqu'un vous l'a proposé, comment tout ça s'est passé?
J'ai vu donc ça il y a pas mal de temps, j'ai vu des campagnes Kickstarter, j'ai suivi comme ça. J'avais gardé ça dans un coin de la tête et j'avais même des idées pour moi en fait de préparer des projets comme ça à faire. Je trouvais ça très intéressant. Et en fait c'est quand on a commencé à travailler sur le jeu qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être des fois trouver des moyens d'améliorer notre budget de communication. Il fallait trouver des plateformes et j'ai parlé de Kickstarter. En plus, il n'y a pas très longtemps, j'avais participé à une campagne pour financer le projet Ouya. Enfin voilà, un petit promo. Et du coup, on a cherché à voir s'il n'y avait pas des plateformes françaises et on nous avait parlé d'Ulule. Du coup, on a commencé à s'intéresser à Ulule.
Donc là, le jeu en est où? J'ai vu que vous aviez lancé des alphas. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est du coup?
La dernière alpha,
ouais.
On a fait deux alphas, en fait. Une première alpha très confidentielle, où on était l'équipe de dev. Que l'équipe de dev, en gros debug, machin. Bon, ça a été violent. Ouais. Une deuxième alpha, on était connaissance très proche, donc on était 30. Et on a un peu plus éprouvé le jeu, ça a été un peu plus marrant. Mais on n'a pas eu encore un jeu, dans le sens où on n'avait pas encore de système de mission et de système de tutoriel qui amenait vraiment un gameplay avec une petite accroche. Et là pour l'Alpha 3, on va essayer de réunir 100 ou 200 joueurs. On va essayer de réunir 200 joueurs pour là pour vraiment tester vraiment le jeu déjà beaucoup plus de manière beaucoup plus costaud et d'essayer d'engager un vrai jeu avec un système de tutoriel, une accroche, etc. Et on espère accrocher bien sûr, enfin tester la politique et les systèmes d'alliance. Et ça a été le déclenchement, en fait, le lancement du développement d'Alpha 3. Ça a été le déclenchement pour lancer le projet Ulule, justement, puisque...
Et donc la prochaine Alpha arrive bientôt, donc avec Ulule, notamment, vous avez un système de contrepartie pour donner des clés bêta. Donc, comment vous avez géré le système de contrepartie dans Ulule, par exemple?
On a fait un brainstorming, en fait, pour savoir... donc déjà, on a bien sûr basé... On a fait en sorte en fait que ce soit très très intéressant en fait au niveau simplement des contreparties pour les pulsars, c'est-à-dire c'est la monnaie premium du jeu.
Oui.
Donc là on en a vraiment donné, on va dire, beaucoup pour la contrepartie, mais évidemment pour nous c'était pas suffisant dans le sens où financer un jeu web en général
c'est enfin le système de financement participatif, c'est plus, on a plus un produit physique à la base souvent quoi, hein, donc un jeu physique, etc. Pour du jeu web, on s'est dit bon, il faut quand même qu'on ait
faut
des trucs physiques, donc on a trouvé des posters, des t-shirts. Et aussi pour les vraiment financements, bon ça prend un peu de temps, pour les financements un peu high level, on a fait des trucs carrément in-game, c'est-à-dire par exemple des stèles, il y a un financement où il y en a qui ont pris ça d'ailleurs, et ils ont une stèle en leur nom, modélisée en 3D sur une carte planète à vie dans le jeu par exemple, donc ça c'est rigolo. Des choses comme ça quoi, voilà. Il y a même un financement où on peut même avoir sa base à soi dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a vraiment sa base
qui sera
designée pour soi quoi. Après c'est un truc des contreparties après un peu high level, voilà. Et après bien sûr ben clé alpha, clé bêta, voilà quoi.
Et au final le jeu sort quand alors officiellement?
Bah d'après le planning officiel il paraît qu'il sort en juin.
Planning officiel.
Alors oui, les deadlines pour les développeurs, je pense que c'était une très très bonne question péremptoire.
Je voulais pas, j'ai pas fait exprès.
En fait, c'est dur parce que à la base la politique n'était pas aussi poussée, et en fait on a vu quand même que globalement c'est là où les joueurs accrochaient pas mal, ce système de politique et d'exploration d'ailleurs. Et en fait, du coup, on l'a développé à fond, quoi. On a rajouté un système de contrôle de zone avec des espèces de taxes, c'est-à-dire que les alliances peuvent contrôler des zones de la planète et taxer les zones qu'elles contrôlent, etc. Et on a vraiment basé le jeu, on a vraiment basé une grosse partie du gameplay sur la politique. On a rajouté beaucoup de fonctionnalités et ça nous a rajouté au moins 2 mois de dev à notre grand désespoir.
Mais bon, c'était le point important.
Voilà, c'était le point important.
C'est ça qui va faire notre différence par rapport aux autres jeux qui existent déjà sur le web. Donc,
sur spatial, ouais, en tout cas. Ouais.
Déjà ça, et puis c'était une volonté d'être à l'écoute des joueurs et de voir que ce qu'ils avaient à nous dire c'était pertinent, donc c'était intéressant.
Oh, pardon. Non, c'est bon. Mais puis aussi d'avoir la possibilité d'avoir du plaisir pour tous, quoi. Ceux qui aiment la politique peuvent jouer la politique, ceux qui veulent faire autre chose comme se battre, ils peuvent se battre. Donc finalement, c'est proposé un panel de gameplay qui soit vraiment intéressant.
Pour chaque type de jeu.
Enfin, mal le dire, mais...
Le côté politique, ça rappelle un petit peu, c'est le MMO Wakfu qui est en train d'être développé par Ankama, où justement il donne beaucoup d'importance aux joueurs, des élections, beaucoup de décisions aux joueurs. J'ai l'impression qu'il y a entre guillemets, un petit modèle qui est en train de se mettre en place, qui est vraiment très très intéressant chez vous aussi.
Alors, je vais pas te mentir, je connais pas les specs de
Wakfu. En gros, c'est le même principe.
D'accord, c'est pas si nouveau que ça. Ça a déjà été utilisé dans certains jeux web. Ouais, puis moi je pensais surtout aussi à Human Epic, où justement on est un homme de Néandertal et on évolue suivant les grandes époques de l'histoire. Et il y a dans chaque partie de ce jeu, il y a en fait toujours un chef de village qui va être élu, qui va faire sa campagne. C'est déjà tout existant. C'est déjà la politique, il y a déjà des petits trucs. Mais c'est vrai que pas forcément poussé aussi loin avec un système social plus important. C'est là-dessus qu'on va aller. Je pense que Wakfu peut faire aussi pareil. Ouais.
En fait, voilà, notre idée utopique, c'est dans les jeux web, dans les jeux web avec des mécaniques classiques. En général, il faut qu'il y ait un PMJ, c'est-à-dire une équipe du staff qui crée des events pour vraiment créer la dynamique dans l'univers. On voit tout le temps ça dans les univers au game notamment, ou même ils transfèrent des joueurs pour recycler les univers, etc. Et en fait, là, on aurait notre utopie un peu, c'est d'arriver à créer justement ça in-game, c'est-à-dire qu'il y ait réellement les joueurs eux-mêmes qui ont des responsabilités plus élevées que d'autres joueurs, en fait, ils créent des events eux-mêmes, en fait, et qu'il y ait une espèce de vie du jeu liée au truc. Un exemple tout bête, c'est que par exemple, on peut tomber sur un gouverneur complètement dictateur, les mandats c'est un mois. Et le gouverneur, il peut décider de monter les taxes à fond ou alors d'instaurer carrément une fermeture de la planète en interdisant par exemple d'attaquer les autres joueurs, enfin les joueurs sur d'autres planètes. Et là, à ce moment-là, les joueurs vont, enfin, on adorerait qu'il y ait une rébellion générale, parce que d'ailleurs on l'a presque prévu, et on adorerait quoi, là, qu'il y ait des events comme ça in-game avec des ennemis publics, des trucs comme ça quoi.
Là, ça donne envie. Donc on peut vous retrouver encore sur Lune tant que, donc jusqu'à la fin du financement. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour convaincre les gens de venir jouer à Space Solar?
Bah, la condition sine qua non, c'est...
C'est vraiment trop fort.
Non, c'est une blague.
Une blague privée.
Oui.
On était obligé de le dire, en fait. Donc voilà, la condition sine qua non, c'est qu'il y a une super méga ambiance. Venez, c'est absolument génial, on s'éclate. Et si vous venez pas, de toute façon, on va être tellement dictateur que on va, je sais pas, on va... Ah bah tiens, j'ai plus d'inspiration, tiens, vas-y.
On discute avec nos communautés, par mail, par chat, on est sur Twitter, on est sur... On est là et on vous écoute, on est prêt.
Voilà, on a vraiment envie de faire un jeu pour être en mode on fait un jeu et on est avec les joueurs. On n'a pas envie de faire un jeu et on est en mode voilà, on a fait le jeu. Maintenant il y a un staff, débrouillez-vous quoi. On a envie de vivre le jeu quoi, réellement quoi.
Puis on a plein d'idées géniales.
Je pense que c'est super important pour ce genre de style de jeu.
Ah oui, il y a un truc que je voulais dire aussi. Ah mince.
Je crois que ça y est, on les a perdus.
Oui, je ne sais pas si vous connaissez EVE Online, jeu spatial en ligne, grosse baston, etc. Et apparemment, les développeurs ont laissé 100% de liberté à tous les joueurs. Ils font des coalitions, des grandes batailles, etc., etc. Vous comptez faire la même chose? Laisser 100% de liberté aux joueurs, ne jamais trop intervenir directement?
Alors, effectivement, EVE Online, c'est un très très bon exemple, même si c'est pas un jeu par navigateur. Mais oui. C'est un cas de jeu effectivement qui est entre je vais dire qui est parti en vrille dans le bon sens du terme où effectivement il y a une espèce de coup d'état qui a été fait par les joueurs et c'est un des trucs qu'on aimerait bien vivre à notre modeste échelle sur Space Origin sur du jeu web. Tout à fait.
De toute façon on vous souhaite de réussir en tout cas. Je pense qu'on risque de se retrouver sur le jeu très rapidement.
Puis en plus c'est gratuit.
Oui. On va passer à la suite quand même, parce que le temps tourne, et on va passer à Babozor, Jingle Barberousse. Alors, Babozor, on va passer à toi.
Oui, ton jingle, il est trop bien.
Ah mais oui, je te passerai la chanson, je suis sûr que tu vas adorer.
Ouais, je vais le mettre sur mon téléphone.
Alors, on va un petit peu présenter tous tes projets en détail, parce que tu as beaucoup de projets finalement.
Deux heures plus tard...
Déjà, il y a la grotte du barbu. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est la grotte du barbu rapidement pour ceux qui ne savent pas encore?
Ouh, les vilains, ils ne savent pas ce que c'est, ils seront punis. Pour résumer ça en 2 minutes chrono, c'est un podcast vidéo qui existe depuis 4 ans, un peu plus d'une centaine de vidéos, disponibles gratuitement. Le principe, c'est d'essayer d'évangéliser les gens au DIY ou do it yourself, au hacking physique et à la barbitude en général. Le principe, c'est que je prends des objets qui m'entourent, des objets du quotidien, j'essaye de les bidouiller, de les fabriquer, de les détourner, et de faire des trucs super débiles, mais rigolos. Par exemple, je sais pas, vous fabriquez votre propre sabre Jedi, faire de la crème au beurre à la perceuse...
C'était génial, ça.
Enfin, il y a tellement de trucs, j'ai du mal à choisir lesquels vous dire, donc voilà, allez...
L'épisode que j'ai bien aimé, c'était comment faire sa propre bière.
Ah oui, oui, oui.
J'ai beaucoup aimé.
Il y a une V2 qui est prévue, mais... pour l'instant, j'ai pas tout le matériel.
Et donc, à côté, tu as le Barbucast. Rapidement, le Barbucast, c'est
la version audio. Ouais, c'est la version audio, un peu plus posée, beaucoup plus courte, 30 minutes maximum, où je fais un peu les news du DIY et j'essaie d'aborder un sujet rigolo ou cool.
Récemment, avec le financement par Lune, on va en parler. D'où vient l'idée du ch'temeleu? Déjà, qu'est-ce que c'est le ch'temeleu?
Qu'est-ce que c'est le ch'temeleu? Alors, pour mettre un peu de background, parce que j'ai vu que t'aimais bien ce mot-là.
Ouais, j'aime bien le background.
moi, je suis développeur web depuis plus de 15 ans, donc je suis un vieux développeur web, ce qui est rare, puisque en général, les développeurs web deviennent chefs de projet. Mais moi, les chefs de projet, ça me fait chier, donc j'ai décidé de rester développeur web. Et le surnom du HTML, c'est ch'temeleu, quoi. Parce que quand tu dis HTML 25 fois par jour, tu résumes ça par ch'temeleu. Et le principe du jeu, il est relativement simple. Ça vient comme beaucoup d'idées d'une soirée un peu alcoolisée, avec des amis.
Les meilleures idées viennent des soirées alcoolisées.
Oui, et l'autre nom du brainstorming, c'est la vodka.
Exactement. Ou Jack Daniels. Et en gros, j'étais en train de débugger une page web tout en jouant à des jeux de société avec des potes. Et à la fin, ils m'ont dit tu devrais inventer un jeu de société sur le développement web, comme ça au moins tu resterais à la table. C'était une idée débile, et puis en fait ça a fait son chemin.
Oui, c'est vrai qu'à la base, associer le HTML et le jeu de plateau, c'est vraiment quelque chose qu'on n'imagine pas ensemble à la base.
Ben, c'est une association bizarre, et en fait il y a deux avantages, c'est que ça permet aux développeurs de pouvoir se mettre leur race sur un domaine qu'ils connaissent dans les jeux de société, et le deuxième avantage, c'est que j'ai pu enfin expliquer à mes parents, au bout de 15 ans, quel était mon vrai métier, et que non, je ne suis pas un informaticien, je suis un développeur web, et qu'est-ce que c'est une page web, à quoi ça correspond, etc.
Et oui, et le jeu il est accessible à tous, donc c'est vraiment un but didactique, enfin didactique et s'amuser aussi, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment accessible à tous. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu ?
Alors le fonctionnement du jeu, il est relativement simple. Donc vous pouvez jouer de 2 à 5 joueurs, chaque joueur joue le rôle d'un navigateur web, donc Opera, Safari, Internet Explorer pour ceux qui n'ont pas de chance, Firefox, etc.
Alors celui qui a Internet Explorer a perdu dès le départ, hein ?
Non, c'est pas vrai, j'ai déjà gagné des parties en étant un Internet Explorer. Ouais.
T'avais beaucoup d'argent alors.
Mais c'est juste plus dur. Donc vous pouvez jouer de 2 à 5 et vous avez des cartes en main. Les cartes, elles peuvent être de plusieurs types. Des cartes que vous allez pouvoir poser sur la table pour créer ensemble de façon plus ou moins collaborative votre page web. Et aussi des cartes événements qui vont pouvoir vous permettre de piquer des cartes aux autres, de faire changer les jeux de main, etc., etc. pour donner un peu de dynamisme.
Il y a une question de la chatroom de Rabshaya. Est-ce que Java ou Flash plante comme dans le jeu comme en vrai ?
Oui, puisqu'il y a une carte événement qui s'appelle Freeze Flash, où si jamais tu te la tapes, ton navigateur est freezé pendant un tour et tu peux pas jouer. Donc évidemment, on a mis plein de petites blagues un peu pourries, comme Internet Explorer qui peut pas utiliser certaines cartes, Chrome qui se met à jour tout le temps, donc une carte est valable 2 tours, etc., etc. Le but aussi, c'est de faire des clins d'œil aux autres devs web, qui rigoleront bien, et puis d'introduire un peu le code HTML à ceux qui connaissent rien.
Et donc on en a parlé dans le Queen Novi juste avant, je vous conseille d'écouter, très bonne émission, mais tu as financé le HTML par Ulule. Pourquoi tu as choisi Ulule? Pourquoi il faut choisir le crowdfunding rapidement, hein?
Parce que je me voyais mal aller voir un banquier lui présenter mon projet bizarroïde.
Ouais, c'est ça, ouais.
La deuxième chose, c'est que quand j'ai commencé à jouer avec des potes à droite à gauche au proto, ils trouvaient ça génial, même eux-mêmes se fabriquaient leur propre jeu dans leur coin. Donc je me suis dit, on va essayer de pousser l'idée un peu plus loin. Et puis c'est un peu genre, j'ai lancé ça un petit peu à la one again en disant, bah si ça marche pas, c'est pas grave, ça a marché, donc tant mieux.
Mais c'est aussi dans la continuité du do it yourself, vraiment faire les choses soi-même, je pense que...
Ouais, non, et puis c'est aussi dans la continuité, il y a beaucoup de gens qui ont une grande bouche et qui parlent de plein de trucs, qui ont des idées. Le but, c'est pas d'avoir des idées, c'est de les mettre en pratique.
Ouais.
Donc j'ai pas de thunes, j'ai des idées, j'ai un peu de temps, je suis prêt à travailler beaucoup. Si des gens sont prêts à me backer via des sites de crowdfunding, ben c'est tant mieux, et le projet verra le jour.
Parce qu'au final, il y a eu un bel engouement. Je voyais, il y avait même des articles américains qui parlaient du HTML. Toi, t'as perçu ça comment ? T'as pas été étonné de l'engouement qu'il y avait pour le jeu ?
Mais non, évidemment, je trouvais ça complètement normal. Non, mais attends, t'es complètement mal, quoi.
Oui, non, mais pour ça, c'est une question un petit
non,
peu.
Ouais, non, mais ça
question,
m'a...
Mais...
non, mais ça m'a complètement troué le cul. Je sais pas si on peut dire cul dans ton podcast.
Si,
bon, ben voilà. C'est fait. Non, ça m'a complètement troué le cul. Alors, je savais qu'il y avait déjà une communauté des développeurs web dans laquelle je faisais partie depuis plus de 15 ans. De voir à quel point ils se sont appropriés le jeu, ils ont adoré ça et qu'ils ont retransmis ça. C'est ouf, quoi. J'ai eu des précommandes au Mexique, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Suède. Et c'est surtout, les mecs ont traduit les règles dans plein de langues.
Ah, c'est impressionnant, ça.
Donc, c'est ça qui était surtout vachement intéressant, quoi. C'est de voir l'implication de la communauté dans le jeu.
Et t'as eu des retours en France, t'as eu des retours sur le jeu.
Ouais.
Par exemple, aux États-Unis ou d'autres pays dans le monde, t'as eu des retours sur la qualité du jeu ? Est-ce que les gens ont vraiment aimé ou...
Alors, le problème, c'est que pour l'instant, la moitié des jeux que je dois envoyer à l'étranger sont pas encore envoyés parce que c'est la merde au niveau logistique. Mais non, j'ai eu des retours, beaucoup de retours français, francophones. J'ai eu quelques retours de Suédois, etc., qui ont joué. Et les retours sont bons et des remarques qui sont constructives. J'ai eu aussi des gros trolls de développeurs qui m'ont dit qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas très W3C. Alors oui, c'est vrai. mais le but, il reste quand même de... Ça reste un jeu, hein. Donc tu dois te marrer. Si le jeu est chiant, ben, c'est que t'as foiré. Et c'est aussi un moyen d'introduire les gens au code HTML.
Et comment ça s'est passé, toute la confection, enfin, au niveau des règles, t'as fait des événements où t'as invité des... Enfin, je sais que t'as invité des gens, comment ouais. ça s'est passé?
Il y a eu une phase de prototypage qui a été relativement longue, où j'ai prototypé des jeux. Déjà, j'ai essayé de tester la grandeur des cartes, etc., les plateaux. Et ensuite, j'ai eu la chance que Krilin, l'ami Krilin de Basingcast, qui est un gros psychopathe des jeux...
Et un gros troll.
oui, mais c'est un troll professionnel et on l'aime pour ça.
Qui se débrouille très bien.
qui a réussi à embrigader une partie des mecs dans son boulot pour faire des parties de ch'temeleux le midi, et donc qui a pu tester des versions différentes des règles et me faire des retours super complets. On a aussi organisé des petites parties avec mes parents pour savoir s'ils arrivaient à comprendre, d'autres gens à droite à gauche, mes voisins, et puis tous les potes qui passaient à côté de chez moi, et ben je les embarquais et je leur faisais jouer et on regardait ce qui se passait, quoi.
Et donc t'as fait le jeu, bon. Oui, avec Pascal Mabi qui a fait l'illustration. Pascal Mabi, il est venu naturellement dans le projet ou tu l'as embarqué, tu l'as pris par le col et tu dis viens, on va faire un jeu ou...
Je lui ai fait un vieux tacle et ensuite je l'ai enchaîné à coups de pied quand il était au sol. Non.
À Mawashigari.
Quand ça a commencé à devenir sérieux, c'est-à-dire que j'ai vu que les gens avaient un certain intérêt, je me suis dit je suis pas graphiste, je suis pas illustrateur, dans tout ce qui est les couleurs et tout, je suis une grosse merde. Donc il me faut quelqu'un pour gérer tout ce côté-là. Donc j'ai regardé un peu autour de moi, j'adorais ce qu'il faisait sur Instagraph, ce côté un peu humano-mécanoïde, zombie bizarroïde, avec un côté très naïf. Je trouvais ça vachement bien, et je me suis dit, mon projet c'est de retranscrire dans la vraie vie ce qui se passe sur les machines. Je vois que lui pour illustrer ça. Donc je lui ai envoyé un mail, je lui ai téléphoné, je lui ai parlé du projet. Il a été super emballé tout de suite, et puis voilà quoi. Et en fait, au début, ça devait être une collaboration simple, genre tu fais le design et point. Et en fait, il s'est vachement impliqué dans le projet, et maintenant je peux dire que c'est notre projet, c'est plus que le mien, quoi.
Mais pour le coup, Pascal Mabi, tu le connaissais avant ou...
Je l'avais rencontré une ou deux fois, je le suivais sur Twitter, je suivais aussi un peu Instagraph, malgré ma bande passante pitoyable. Mais c'était quelqu'un que je connaissais de loin, mais que j'ai approché, et collaboration juste génialissime. J'espère que ce sera un projet parmi X qu'on fera ensemble, parce que c'est un mec qui est génial et il a plein de talents, et voilà quoi.
Il y a une question sur le chat de Geekled qui demande du coup, est-ce qu'il y a un dépôt de marque, un dépôt de brevet? Comment ça se passe?
Alors ça, c'est la question intéressante. La première chose, c'est que le jeu, il est en Creative Commons, c'est-à-dire vous pouvez aller, enfin, il est en print and play, donc vous pouvez aller le télécharger. Il y a des PDF. Vous pouvez vous fabriquer votre jeu et jouer chez vous. Il est aussi extensible entre guillemets. Vous voulez créer des nouvelles cartes, créer de nouveaux plateaux, modifier les règles, ben il y a aucun problème. La seule restriction, c'est de remettre ça dans le domaine dans la même façon que vous l'avez eu, c'est-à-dire de façon gratuite. Et la dernière chose, on interdit les utilisations commerciales, c'est-à-dire vous n'avez pas droit d'aller imprimer votre jeu ch'temeleux et d'aller le vendre derrière notre dos. Mais en dehors de ça, le jeu est complètement libre. Nous, la seule chose, c'est que on a gardé le design de Pascal, etc., pour les gens qui commandent la vraie boîte. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un avantage à commander la vraie boîte. Mais sinon, le jeu, les règles, les cartes, tout est dispo sur ch'temeleux.org.
C'est vrai que le design est super sympa en plus. Est-ce qu'il y a une suite de prévu au ch'temeleux?
Alors déjà, déjà on va s'appuyer sur
une extension.
Déjà on va s'appuyer sur les retours qu'on a eu sur la première version où on a fait des fautes d'orthographe, on a oublié la définition d'une carte, enfin voilà quoi. Toutes les choses que les noobs en édition de jeu font pour la première édition. Donc on risque d'y avoir une deuxième édition. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions, de cartes, de plateaux, de modifications des règles, etc. Dès qu'on aura un peu de temps, c'est un des projets. Enfin, il y a deux gros projets, mais on va essayer de compléter le site web avec un système de propositions de cartes, de propositions de plateaux, de propositions de règles, et que les gens puissent voter pour ces propositions-là.
Alors, je vois Titoirs en caméra qui nous montre le ch'temeleux qu'il a
oh,
eu.
Oh, trop cool!
Et au final, on peut le retrouver où, le ch'temeleux?
Ben, sur ch'temeleux.org. Tu peux le retrouver en print and play, et ensuite tu peux aller sur le shop du barbu pour t'acheter une version physique à 19 euros plus les frais de port. Comment je fais ma pub?
Ah bah non, t'as raison, hein. Et je voulais aussi parler de Barbitude 2013, parce que forcément c'est en plein dans ton actualité, alors on va forcément en parler. Barbitude 2013, qu'est-ce que c'est déjà?
En gros, le principe, c'est... comme je le disais, je fais un podcast, La Grotte du Barbu, depuis 4 ans, etc. Et sur l'année de 2012, il y a eu un petit coup de mou, parce que professionnellement, j'avais plus trop de thunes, plus trop de temps, etc. Et La Grotte du Barbu, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je me suis dit, bah voilà, pour m'en occuper correctement et acheter un tout petit peu de matos pour améliorer la lumière, un peu le son, etc., j'ai besoin d'un petit peu de thunes. Donc je vais essayer de faire appel à la communauté.
Donc avec des nouveaux épisodes, plein d'années,
voilà,
j'imagine.
J'ai 5 pages remplies de trucs que j'aimerais faire pour 2013. J'ai proposé en contrepartie des autocollants, des t-shirts, un kit de barbu, etc. Et ça a très 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 bien marché, puisque l'objectif était de 2000 euros. Il a été rempli en moins de 24 heures. Et là...
Ouais, c'est impressionnant.
J'ai pas envie de dire...
Et là, on en est à 229%, 4587 euros.
Là, c'est ultra giga 3H2Q. Je pouvais pas espérer mieux, tu vois. Donc, déjà, un grand merci à tous les barbus. Et puis, ça présage une année 2013 vraiment cool.
Où est-ce qu'on peut retrouver la Grotte du Barbu sur Internet?
Mais déjà, tu peux aller sur lagrottedubarbu.com.
Ouais. Écouter le Barbucast aussi.
Tu peux écouter le Barbucast aussi. Tu peux aller choper La Grotte du Barbu sur iTunes. Tu peux m'envoyer des mails d'insultes, hein, j'aime bien ça. Tu peux aller sur Twitter aussi, @lagrottedubarbu, tout ça. Et puis aller filer plein de thunes sur Ulule.
Ah bah oui, faut retourner sur Ulule. Et juste, si tu devais conseiller pour commencer La Grotte du Barbu, un ou deux épisodes comme ça, pour les auditeurs.
Alors je pense que celui qui parle le plus aux gens, il y en a deux. Il y a la balançoire dans le métro. Il y a aussi le kitchen hacking, qui date un peu, mais c'est vrai que la crème au beurre, la perceuse, en général, ça parle aux gens. Et puis ensuite, il y a des trucs qui sont sympas, se fabriquer un portefeuille avec du scotch, ce genre de...
Les Pepakura aussi, t'es marrant.
Ouais, les Pepakura, il y aura un autre épisode en 2013 qui va être assez bourrin. Sur le Pepakura, enfin bref.
Plein de projets du coup.
Ouais, il y a plein de projets. Et le but aussi, c'est de continuer à faire des projets un peu plus barbus, mais aussi garder des projets super accessibles qu'on peut faire à la maison sans avoir une scie circulaire de bourrin ou des trucs dangereux.
Il y avait aussi la question que tout le monde se pose, que devient le faïence pusher?
Le faïence pusher, alors en fait j'ai eu un gros fail, puisque je l'avais découpé sur du MDF de 5 mm, dans la grotte il fait humide et en fait le MDF s'est gonflé, enfin c'est pas suffisamment solide, mais je suis en train de préparer pour 2013 la V2 du faïence pusher, et là ça va pusher sévère, je tiens à vous prévenir, Lord ton père prépare tes pièces.
Ça va faire des heureux, hein, parce que ça en parle beaucoup à chaque fois.
Ben ouais, mais en même temps, c'est moi qui est teasé comme un porc et j'arrive même pas à délivrer, donc voilà quoi. Donc, mais ça arrive comme quand tu pushes, faut juste être un peu patient.
Et ben merci, hein. Donc on peut te retrouver sur La Grotte du Barbu, sur Twitter. L'écouter La Grotte du Barbu, c'est vraiment un excellent podcast. On va passer à la conclusion avec le jingle Barberousse. Alors, merci à tous de nous avoir suivis en live, malgré les petits problèmes de son, n'en parlerons pas. Merci aux invités, donc merci à l'équipe de Space Origin si vous êtes là, si vous n'avez pas disparu. Merci à vous d'être venu. Hein.
Merci à vous.
Et merci aussi à Babozer d'être venu.
Hein. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, vive Néon sur Creuse.
Vive le 56K.
C'est la future capitale intergalactique de la barbitude.
Rapidement, on peut vous retrouver où sur Internet, Space Origin?
Bah, on tape Space Origin dans Google, sur Ulule également. Voilà,
oui,
on a un site web, on a un Facebook, on a un Twitter, on a des blogs. Voilà.
En fait, simplement en tapant Space Origin sur Google, il y a tout. Il y a le Facebook, le blog, YouTube, Twitter, il y a tout.
Ce qui est bien, c'est que vous êtes très actif en tout cas.
Ouais, pas mal.
Et Babozor, on peut te retrouver.
Écoute, Babozor sur Twitter, la grotte du barbu, jtemeleux.org, viendez acheter des jeux quand même que c'est bien.
Achetez-le.
Voilà, et mettez votre race à vos potes développeurs ou expliquez à votre mère c'est quoi le jtemeleux. Et puis voilà.
Pour rappel, le podcast, vous pouvez retrouver le podcast sur le blog leséclaireurspodcast.blogspot.com. Vous pouvez le retrouver sur le Twitter @les_éclaireurs. Vous pouvez retrouver le podcast sur iTunes. Alors, merci de nous avoir suivis et